Suivez Priorité Santé avec Sunou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sunou Bank avec vous à chaque étape.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Lissé, tressé, teint, rasé, nous parlons aujourd'hui de la santé et les soins des cheveux dans Priorité Santé. Et ce n'est pas simplement une préoccupation d'ordre esthétique. Démangeaisons, chutes, maladies du cuir chevelu. Certains de ces troubles capillaires sont temporaires, d'autres définitifs. Et même s'ils peuvent être considérés comme bénins, en modifiant l'apparence, ces atteintes peuvent avoir un réel impact sur notre bien-être et à terme peser sur l'état de santé général. Des causes très diverses peuvent expliquer les chutes de cheveux, des carences, certains dérèglements, des maladies auto-immunes. Et à côté de ces causes internes, certaines pratiques peuvent durablement abîmer la chevelure. Des habitudes le plus souvent à vocation esthétique, sans que forcément les personnes concernées ne soient informées ni conscientes de ces risques. Nature, fragilité, respect des cheveux, vous pouvez poser toutes vos questions à notre numéro WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 avec des spécialistes à votre écoute. Comment prendre soin de ses cheveux, notamment bien sûr éviter leur chute. En studio avec nous, docteur Philippe Assouli, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dermatologue spécialiste du cuir chevelu au centre Saboureau de l'hôpital Saint-Louis APHP à Paris. On va retrouver tout à l'heure en ligne de la Guinée, docteur Fatimata Keïta, elle est praticienne hospitalière au service de dermato-MST du CHU d'Oncat Conakry. Et puis en fin d'émission, on parlera activité sportive et santé avec le docteur Jean-Marc Seine, médecin du sport.
Priorité Santé sur RFI.
Alors, dans un service dédié à la santé des cheveux, docteur Philippe Assouli, comme celui au sein duquel vous exercez à l'hôpital Saint-Louis, quels sont les principaux motifs de consultation ? On vient pourquoi ?
On vient pour tout un tas de motifs. Ça peut être pour une chute de cheveux passagère, une chute de cheveux chronique, une alopécie, c'est-à-dire un manque de cheveux dû à une chute de cheveux qui a été notée ou pas notée, à des problèmes de cuir chevelu, c'est-à-dire de démangeaisons, de croûtes, de squames, des pustules, des gros boutons dans la tête, des espèces de cicatrices, enfin, ce qu'on appelle les cicatrices kéloïdes qui ne sont pas des cicatrices, donc des kéloïdes, donc des espèces de nodules qui se mettent sur l'arrière du crâne. Voilà, tout peut apparaître, ou pour des conseils, mais ça beaucoup plus rarement, pour savoir comment gérer une chevelure, notamment afrodescendante.
Alors justement, cheveux frisés ou lisses, épais ou fins, docteur Assouli, pourquoi la nature du cheveu va impliquer en quelque sorte des affections, des fragilités distinctes et peut-être des réponses différentes ?
Alors, il y a beaucoup de sortes de cheveux en effet, et selon le type de cheveux, c'est-à-dire... Le cheveu peut être d'une structure, si on le coupe en rondelles, un cheveu, il peut être soit rond, soit ovale, soit comme une forme de ruban. Et donc, une personne d'ascendance asiatique va avoir un cheveu qui a une structure ronde dans le transversal, et une personne d'ascendance africaine, ça va être assez plat. Et donc, ça va occasionner... Et aussi parce que la sortie du cuir chevelu va faire que le cheveu va pousser différemment... des pathologies ou des choses différentes. Par exemple, sur une personne afrodescendante, le sébum a du mal à remonter le long des cheveux et on va avoir plus facilement ce qu'on appelle une dermite séboréique, c'est-à-dire un état pelliculaire, des démangeaisons, et en même temps des cheveux secs, donc avec toute une problématique de ces cheveux secs, en particulier dans nos climats où il y a peu d'humidité. Et à l'opposé, chez les personnes d'ascendance asiatique, on va avoir des cheveux qui sont plus rares. Et s'il manque quelques cheveux, ça va se voir très très rapidement. Donc ça va faire des demandes et des pathologies différentes. Selon que la personne est un homme et une femme, les modes de coiffage vont être aussi différents. Et donc là encore, il y a des pathologies différentes qui apparaissent.
Alors, perte pousse des cheveux, ça suscite beaucoup d'interrogations, avec même des croyances, des promesses cosmétiques. Hein, la recette miracle qui fait repousser les cheveux. Et des questions simples aussi, docteur Assouli, comme celle de Martial, de Boutel. Tembo en RDC, il demande si la calvitie c'est héréditaire.
Alors pour une part, la calvitie c'est héréditaire, c'est-à-dire que on a un caractère génétique. Lorsqu'il y a dans la famille que des personnes qui ont des alopécies androgéniques, donc cette chute de cheveux qui fait que on a de moins en moins de cheveux au niveau des golfs frontotemporaux et sur le sommet du crâne, ce qu'on appelle le vertex, il s'affine progressivement. En effet, il y a cette prédisposition qui peut venir aussi bien du côté paternel que maternel, mais il y a une centaine de gènes responsables de ça. Donc, c'est pas tel père, tel fils, ou telle mère, telle fille, etc. Beaucoup plus compliqué que ça.
Alors, des différentes causes de chute de cheveux, on va s'intéresser aux femmes. Deux questions d'auditrices congolaises sur WhatsApp. Astrid de Kinshasa nous écrit, on dit qu'à la période du postpartum, les femmes perdent beaucoup les cheveux, que la texture des cheveux s'abîme. Est-ce que c'est vrai? Et si oui, comment éviter ça? Alors, ces modifications de la chevelure dans la période qui suit la grossesse, est-ce que c'est quelque chose qui est observé, docteur Assouli, et confirmé scientifiquement?
Ça s'est observé et confirmé. On sait que parmi les facteurs qui sont promoteurs de la pousse des cheveux, c'est-à-dire qui vont permettre que le cheveu pousse longtemps, ce qu'on appelle la phase anagène, la phase de croissance, il y a les œstrogènes. Et une femme qui est enceinte baigne dans les œstrogènes, ce qui permet une pousse qui est extrêmement longue et avec de fait peu de chutes. Ce qui fait qu'après l'accouchement, ça peut être retardé lorsqu'il y a un allaitement, il y a forcément une chute de cheveux qui est physiologique, qui est normale, qui est attendue. On a aussi ça après une fausse couche, après l'arrêt d'une pilule, de manière moins nette, mais c'est également présent. Quant au changement de la texture, bof bof, c'est-à-dire que le cheveu, c'est une structure morte, ce qui a poussé ne changera pas, et ce qui est à 30 cm de l'émergence du crâne est ce qui a poussé il y a 3 ans à peu près.
Donc, on a une autre question justement sur la santé, on va dire féminine des cheveux, facteur hormonal là encore. C'est Catherine qui demande si l'implant contraceptif peut causer une chute de cheveux.
Alors, un implant contraceptif ne peut pas déclencher une chute en tant que telle, mais comme les implants contraceptifs sont des progestatifs purs, il n'y a pas d'œstrogène, on a de fait éventuellement cette diminution des œstrogènes et ce caractère un peu androgénique qui favorise les hormones masculines de certains progestatifs. De fait, sur des terrains prédisposés, on aura moins de pousses de cheveux, on peut avoir un peu d'acné, on peut avoir une peau plus grasse. Et ça peut mettre en évidence éventuellement un peu l'alopécie androgénique, donc cet affinement des cheveux sur le sommet du crâne.
Alors, chute, pousse des cheveux, cette fois, Dina de Dubaï. Tout à l'heure, je disais recette miracle. Dina de Dubaï, elle aimerait savoir comment faire pousser les cheveux rapidement sans les abîmer. Accélérateur de croissance, est-ce que ça existe?
Il n'y a pas de produit qui va accélérer la croissance des cheveux. La sagesse, c'est un, ne pas fumer. Parce que c'est plutôt promoteur d'une chute de cheveux. Deux, manger correctement et de manière équilibrée. Il n'y a pas un aliment qui va être l'aliment des cheveux. Et après, c'est ne pas traumatiser les cheveux, point. Et les seuls produits qui font pousser les cheveux, c'est le minoxidil, c'est-à-dire cette molécule qui est utilisée pour faire pousser de manière générale le reste. Non, on ne peut pas dire que la vitamine B, le ceci, le cela vont agir de quoi que ce soit. C'est-à-dire que s'il y a une énorme carence parce qu'une personne est hospitalisée, parce que quelqu'un va se retrouver dans des conditions très particulières, il y aura 1000 symptômes, dont une chute de cheveux, mais pas une chute de cheveux spécialement, et ce n'est pas en rajoutant des produits qu'on va permettre qu'il n'y ait pas de chute ou que ça pousse mieux.
Reportage à présent sur un sujet médiatisé, très médiatisé, le tourisme médical en Europe pour se faire greffer les cheveux. Et l'occasion de rencontrer Guillaume, il a 50 ans aujourd'hui, il a commencé à perdre ses cheveux il y a 20 ans et après des années de complexes, il a sauté le pas à 46 ans, il est parti en Grèce pour y faire une greffe capillaire, intervention qui lui a coûté pas moins de 6 000 €, mais il ne le regrette pas. Il raconte son expérience au micro de notre reporter Raphaël Constant.
J'ai commencé à perdre les cheveux à la trentaine, ça s'est déclenché suite à un choc émotionnel important. Ça commence à beaucoup tomber, ça devenait difficile de me coiffer et difficile à assumer.
Et alors comment vous est venue l'idée d'une greffe?
Elle est venue pas tout de suite parce que c'était pas très démocratisé il y a 20 ans. Il y a un de mes amis qui est un de mes meilleurs amis avec qui je suis parti faire ma greffe de cheveux. Et il a commencé à me parler d'un de ses amis pharmaciens qui avait fait une greffe de cheveux. Et là, j'ai commencé à me plonger dans le sujet pour pouvoir peut-être avoir un regard un peu éclairé et faire les bons choix. Je ne veux pas faire de greffe low cost. Je me suis intéressé à la Turquie, je me suis intéressé à la France. J'ai cherché en Italie, en Espagne, en Angleterre. Ce qui était important pour moi, c'est de me dire d'abord quelle était la meilleure des techniques. Et donc, c'est une technique qui s'appelle la technique DHI, qui avait été développée en Grèce. Et je suis tombé sur un organisme en France, mais qui faisait ses interventions en Grèce.
Alors, vous partez en Grèce pour cette greffe capillaire. Et comment ça se passe? En quoi ça consiste?
Alors, il y a toute une analyse préalable qui est faite quand même. Il y a tout un diagnostic. Donc, je savais ce qui allait m'arriver. On avait une praticienne, c'était des femmes, qui s'occupaient de nous.
Et puis donc, c'était bien une équipe médicale.
Tout à fait. Puis après, on est passé au moment le plus particulier, en tout cas pour moi, c'est le rasage. C'est quelque chose qu'on se refuse à faire souvent quand on n'assume pas sa perte de cheveux. Et ensuite, on va passer à la phase d'extraction des follicules. C'est une anesthésie locale, donc on la sent. Hein. C'est comme quand on va chez le dentiste. Mais j'ai pas eu mal vraiment après. Ça a beaucoup démangé, mais j'ai pas eu mal après. Puis là, c'est passé à la séance d'implantation. Mais moi, j'étais sur 2 jours d'intervention. Le pote à qui je suis parti, lui, sur 1 jour. Donc moi, c'était quand même beaucoup plus long.
Pour bien comprendre, Guillaume, il s'agit en fait de prélèvements de greffons, de follicules, de vos propres cheveux sur votre crâne, qu'on va réimplanter.
Oui, c'est ça. Alors, ils les ont enlevés derrière et sur les côtés, au-dessus des oreilles, de manière très, très large, pour que ça se voie justement le moins possible. Donc, c'est pas trop angoissant.
Et alors, finalement, Guillaume, comment s'est passée l'évolution de la greffe en post-opératoire ?
Moi, j'ai juste gardé des rougeurs pendant un petit bout de temps. Il y a eu toute une phase où j'ai vraiment appliqué à la lettre ce qu'on me disait, parce qu'il faut faire plein de shampoings. Donc, le soir, le matin, avec une méthodologie bien spécifique. D'abord, on ne touche pas là où ça a été greffé, on touche que là où on est venu extraire les follicules. Et ensuite, au bout d'un moment, et ça, c'est le moment un petit peu stressant, on va commencer à nettoyer le dessus en massant les greffons. Et là, l'objectif, c'est que les croûtes s'évacuent tout doucement. Et c'est là où on a toujours un petit peu peur que dans les croûtes parte la racine, quoi, hein, le follicule.
Et après, il me semble qu'il faut être patient, parce que finalement, les résultats définitifs sont visibles 12 mois, un an plus tard.
C'est un côté autant frustrant qu'excitant. Moi, ça a commencé à vraiment bien repousser à 4 mois. Le temps de repousse, apparemment, est différent en fonction des endroits où on greffe. Devant, ça va plus vite. Et moi, devant, à 6 mois, devant et puis un peu au milieu, c'était incroyable. Et ça a été un petit peu plus long à l'arrière.
Et alors, comment vous avez réagi la première fois que vous avez pu passer votre main dans vos cheveux ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez une vraie chevelure.
C'était incroyable. Ce qui a été le plus dingue, c'était la première fois que je suis allé chez le coiffeur. C'était un grand moment, plein d'émotions. Ça a changé ma vie, hein, clairement. Ça m'a presque fait renaître. Je fuyais les miroirs, j'allais plus me baigner parce que je voulais pas avoir les cheveux mouillés et parce qu'ils étaient plaqués, on voyait encore plus la perte. Dès que ça part les cheveux quelque part, je fuyais. Et deuxième chose, si c'était une soirée qu'on me touchait la tête et que ça bougeait tout mon micmac avec du gel, des produits coiffants, la soirée était terminée, je rentrais chez moi. Donc ce que ça a changé pour moi, ça m'a juste changé la vie.
Docteur Philippe Assouli, greffe capillaire, quel est votre regard à vous, dermatologue, sur cette procédure ? C'est de la chirurgie esthétique, hein ?
Alors, c'est difficile de parler. On sait qu'en dermatologie, on est un peu mal à l'aise sur le côté esthétique. À partir d'où parle-t-on d'esthétique ? Si c'est la qualité de vie qui est altérée, donc ça, c'est très compliqué de classer les choses.
C'est pas négatif, c'est essentiel.
Non, mais c'est, sans parler
du bien-être.
Voilà. Alors oui, c'est un des anneaux, disons, dans la chaîne du traitement de l'alopécie androgénique notamment. Si on a, par exemple, je ne sais pas moi, une alopécie par traction et qu'il y a une zone sans cheveux, la seule solution, c'est de remplacer en mettant des cheveux. Si on a un coup de hache sur la tête et qu'il y a un manque de cheveux, on va planter des cheveux, ok. Après, dans l'histoire de l'alopécie androgénique, il y a un processus qui se fait à partir d'un certain âge et qui va être continu avec une diminution progressive du capital cheveux. Si on ne voit que la greffe comme étant la solution, telle que ça a été présenté au cours des dernières années, notamment avec ce côté
tourisme médical.
Voilà, tourisme médical et objet de consommation, on va complètement dans le mur. C'est-à-dire qu'on va planter des cheveux sur une zone, sur un certain nombre d'endroits, et l'alopécie androgénique continue de faire son petit boulot avec diminution du capital cheveux. Et donc, il faut imaginer non pas à l'instant T, ou 2 ans ou 3 ans après, mais 10 ans après, est-ce que y a un traitement qui va bloquer ou pas bloquer ? Et est-ce que, de fait, on a de quoi refaire des implants si on a enlevé un certain nombre d'endroits et que il faut encore compléter les endroits manquants ?
Ça veut dire qu'il y a un caractère temporaire qui est à prévoir ?
Il faut imaginer la suite, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais, quand on a une personne jeune, envisager des greffes de cheveux si on n'a pas bloqué la chute de cheveux.
D'accord,
il faut
la
toujours
cause,
bloquer.
La cause,
et après, il y a l'autre problème. Alors là, c'est très bien parce que c'était fait en Grèce avec un truc très réfléchi, etc. Ce qui reste très gênant, c'est le fait que quand les gens reviennent dans leur pays d'origine, la France par exemple, c'est la médecine locale qui s'occupe des suites. Et si ça ne se passe pas bien, normalement, quand on a un problème ou des questions et qu'on se trouve retrouve dans, auprès d'un médecin, bah, c'est lui qui assure la suite. Si on se retrouve avec quelqu'un qui a été amené une enveloppe d'argent en espèces pour payer un acte chirurgical quelque part, dans un endroit où il n'y a pas de sécurité sociale, de ceci, de cela, et que la personne revient, il y a quelque chose
éthique.
Ah oui, moi je trouve ça éthique et très gênant, et voilà, l'avenir n'est pas là, quoi, en tout cas.
Question qui porte aussi sur la calvitie. Maria du Cameroun explique que son compagnon qui a 35 ans a un début de calvitie depuis 2 ans. Milieu de la tête est de plus en plus dégarni, sale complexe. Elle demande si un traitement permet justement de retarder, freiner cette calvitie. C'est ce dont vous parliez tout à l'heure.
Voilà, il y a 2 traitements chez l'homme, le minoxidil, le finastéride. Le minoxidil sous forme locale dans l'extrême majorité des cas, sous forme orale dans des cas particuliers, et le finastéride par voie orale, parce que par voie locale, ça va sortir, mais ça n'a pas d'intérêt particulier. Et donc ces 2 traitements permettent de bloquer le processus, on va dire, dans 3/4 des cas, et permettent éventuellement de gagner un peu d'épaisseur, c'est-à-dire de gagner environ 10% de calibre de cheveux qui se sont affinés.
Quoi qu'il en soit, Maria, ça veut dire qu'il faut consulter, poser la question à un médecin. Docteur Assouli, on va poursuivre notre échange. On va tout à l'heure avoir une de vos confrères, consoeurs, en ligne de Guinée. Juste après, Sans Souci avec If I Let a White Man Cut My Hair. Tout un programme. Black curls floating in the air, a crystal on her neck and motherly hands. Locks over her head, visionary lens, colors all over the place. Can you smell it in her scent? Tears over my face, the eyes of a close friend. Comb my inner shivers and the storm within. I'm ready to let go, I'm ready to begin. I guess it's the right place, there's no one else I should be with. My head, I said I like myself, she said. Where was me before this? Curled up on the floor with everything it took for me to be here. Everyone seems specialized on working with old hair ships, but everywhere I go is always you and on me. I can't believe I almost turned it over my piece to the ones who tried to damage my legacy. Question sur la santé et les soins capillaires dans Priorité Santé sur RFI. Nous sommes toujours avec le docteur Philippe Assouli, dermatologue spécialiste du cuir chevelu au centre Saboureau de l'hôpital Saint-Louis à PHP à Paris. On part tout de suite pour le Sénégal.
RFI à Dakar. 92 FM.
Alors William, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous avez 42 ans et c'est votre sœur qui vous a alerté au sujet de vos cheveux. Qu'est-ce qu'elle a pu constater ?
J'avais eu en temps à constater que un matin, et j'ai pas eu de cheveux. Il y a eu un point qui est apparu sur ma nuque.
Oui.
Et avec le temps, j'ai contacté mon médecin de travail qui me faisait comprendre que c'était un signe de vieillissement. Au fil des jours, ça a commencé par s'élargir. Et là, je me suis rendu chez le dermatologue.
Et qui vous a donné un avis différent, ce dermatologue, par rapport à... On vous a dit, vous perdez vos cheveux parce que vous prenez de l'âge. Et en fait, c'était pas ça?
C'était pas ça. Donc, le dermatologue m'a fait comprendre que c'était une pelade. Mais et que ça pouvait être pris. Donc, il m'a fait donc des traitements et je n'obtenais pas. Il m'a passé plusieurs médicaments et des compléments alimentaires que j'ai pris sur plusieurs mois, à longueur de 6 mois. Je n'ai pas eu de satisfaction. Et c'était sur le traitement donc, des produits du Mac Duco qui me coûtait extrêmement cher. Mais je n'ai toujours pas eu de satisfaction. Donc, après 2 ans, j'ai suspendu donc, le traitement.
Ouais, vous avez suspendu. Je me retourne juste vers le spécialiste qui est avec nous, la pelade. De quoi s'agit-il, docteur ?
Alors, la pelade, c'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que le follicule pileux n'est pas reconnu par nos globules blancs. Il y a une petite erreur qui est faite. Donc, ils sont attaqués, ils chutent, mais ils restent présents. Le bulbe reste toujours présent. Et la zone occipitale, donc la nuque, est une des zones classiques de pelade. Mais c'est une zone qui repousse beaucoup plus lentement que la zone qui est située sur sur la partie antérieure du cuir chevelu. En l'occurrence, la couronne hippocratique, c'est-à-dire la périphérie des cheveux avec ce qui est au-dessus des oreilles et ce qui est sur l'arrière, c'est justement ce qui reste même en vieillissant. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est vraiment d'autres pathologies qui peuvent apparaître dans cette zone-là.
Alors, William, vous avez donc eu ce traitement, on vous retrouve à Dakar. Est-ce que les cheveux sont revenus dans la zone où ils étaient tombés ?
Oui, les cheveux sont revenus. Les cheveux sont revenus avec une apparition de cheveux blancs.
Oui.
Et qui progressivement, je vois que c'est transformé en cheveux noirs. Mais c'est que ça a occupé une grande partie de ma zone de la nuque. Et donc, cela me présentait des difficultés à sortir en public. Donc, j'ai oublié de me raser toutefois la tête.
Oui, ça vous complexe, on a bien compris. Et vos questions, William, à notre invité, allez-y, je vous en prie.
Oui, je voulais savoir, qu'est-ce qui pouvait être à l'origine de cette maladie et est-ce que cette maladie, je peux encore donc reprendre dans la maladie, est-ce que c'est susceptible de revenir encore ?
Alors, sur le risque de récidive de la pelade, l'origine, vous avez dit maladie auto-immune, est-ce que ça veut dire qu'il y a des traitements pour essayer de contrer le processus ?
Oui, c'est une inflammation, donc on utilise des produits qui calment l'inflammation. En première ligne, la cortisone sous forme de lotion généralement, qui fonctionne assez bien. Il faut le faire suffisamment longtemps pour que ça fonctionne. Et puis on fait des injections aussi de cortisone, c'est ce qui marche le plus rapidement au niveau de la nuque. Donc c'est de la cortisone diluée qu'on injecte et quelques semaines plus tard, il y a une repousse en principe.
Donc ça veut dire qu'il faut peut-être retourner consulter, William, c'est ce qu'on pourrait vous conseiller. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, d'accord, parce que je vais suivre donc, les conseils du docteur et reprendre donc, le traitement comme il faut.
Merci beaucoup. Vous voulez rajouter quelque chose ?
Oui, effectivement, par contre, on ne peut jamais jurer que ce sera définitif. Il peut y avoir des récidives, ça c'est possible, et ça sera traité à ce moment-là de la même manière. Puis après, il y a d'autres traitements, deuxième, de troisième ligne, etc. Mais il n'y a pas de destruction.
Un médecin pourra vous renseigner là-dessus. On vous remercie beaucoup pour votre appel. On a Abdourahmane du Niger qui explique avoir des pellicules qui le dérangent, surtout lorsqu'il fait froid. Il voudrait savoir, docteur Assouli, comment s'en débarrasser.
Les pellicules sont liées à plein de phénomènes. Ça peut être parce que c'est irritatif simplement, parce qu'il y a trop de sébum qui stagne. C'est un problème qui augmente notamment pendant la période hiver, effectivement, et qui diminue plutôt pendant la période estivale. C'est aussi parce que le sébum va augmenter si on met des chapeaux, des bonnets, et que ça stagne à l'intérieur. Et après, les traitements sont le plus souvent des anti-champignons, parce que dans le mécanisme qui fait que des pellicules apparaissent, il y a des champignons qui prolifèrent, qui ne sont pas des méchants champignons, on les héberge en permanence, mais il y a un déséquilibre qui se fait dans le cuir chevelu. Et la plupart des shampoings qui existent sur le marché qui sont dits antipelliculaires contiennent un anti-champignon. Donc après, il y a principalement 4 ou 5 molécules. Et si la première ne marche pas, c'est la deuxième, etc., etc.
Donc des shampoings régulateurs, on va dire. Alors maintenant, on a Yaoundé au Cameroun. Massiré en ligne avec nous. Massiré, bonjour.
Bonjour.
Alors vous avez 23 ans, Massiré. Alors ce qui vous préoccupe, ce sont vos cheveux blancs. Où est-ce qu'ils sont localisés, ces cheveux blancs ?
Bon, c'est partout sur la tête comme ça.
Partout, ils sont apparus il y a combien de temps ?
Bon, il y a déjà 3 ans, c'était depuis en 2021.
Et vous avez, j'imagine, des questions sur leur origine. Comment ça se fait chez un jeune, 23 ans, c'est vraiment très jeune. Comment ça se fait, docteur Assouli, qu'on puisse avoir des cheveux blancs comme Massiré à la vingtaine à peine ?
Alors, ça dépend si c'est quelques cheveux qui sont un peu partout et qui, au fur et à mesure, augmentent en nombre ou si c'est de manière massive. Si c'est un peu partout, généralement, il y a plutôt une prédisposition familiale. Alors, ce n'est pas toujours le père ou la mère, mais cette prédisposition, et ça ne cache rien, c'est comme ça. Quand c'est de manière massive, à ce moment-là, il faut se poser la question de certaines pathologies auto-immunes. Il y a des pelades qui peuvent donner ça, il y a des carences en vitamine B12, mais ça reste rare, et c'est dans ce cas-là quelque chose de, de vraiment très intense. Si ça se fait progressivement, pas à pas, ça ne cache rien. C'est comme ça et il n'y a pas malheureusement de moyen d'éviter ce phénomène.
Voilà pour ces explications. Un grand merci à vous, hein, Massiré, pour votre appel. Soins des cheveux et recettes maison, parfois ça tourne mal. On va écouter le message de Marie qui nous a envoyé justement une question, un témoignage sur le répondeur WhatsApp de l'émission au 33 7 61 18 46 41.
Bonjour à tous, Marie depuis la France, en Normandie. Il se trouve que j'ai utilisé le clou de girofle que j'ai mélangé avec de l'eau. J'ai étalé cela sur mon cuir chevelu, sur mes cheveux. Et durant cette manipulation, le liquide a coulé sur le côté de mon visage ainsi que l'oreille. Et ça m'a procuré une allergie. Une allergie qui s'est propagée au fur et à mesure, qui s'est dégradée. J'ai pas pris ça au sérieux. J'ai juste rincé à l'eau claire les cheveux ainsi que le visage. Et l'allergie s'est aggravée jusqu'à je me suis retrouvée plusieurs jours après aux urgences. Et ça m'a fait une brûlure au second degré. Et à l'hôpital, ils ont dit qu'ils avaient jamais vu ça. Jusqu'à ils ont pris des photos, ils ont envoyé même à Paris au niveau des services des grands brûlés, parce que c'était la première fois apparemment à l'hôpital qu'ils voyaient cela. Donc ma question aurait été de savoir, lorsqu'on a une allergie au niveau du cuir chevelu, qu'est-ce qu'il faut faire en premier lieu? Merci.
Question au dermatologue, docteur Assouli, et preuve, hein, s'il fallait encore le faire, que ce n'est pas parce qu'on utilise des produits maison qu'il n'y a aucun effet secondaire. Alors c'était vraiment extrême dans le cas de Marie, cette allergie au clou de girofle, c'est quelque chose dont vous avez déjà entendu parler?
Non, jamais. Jamais. Après, je n'ai pas fait de la littérature là-dessus, il faut regarder. Et puis, il faut savoir si c'est un phénomène caustique ou allergique. C'est-à-dire que là, on parle de brûlure, c'est-à-dire d'un phénomène caustique. Et la plupart des végétaux vont pouvoir, à certaines doses, déclencher éventuellement une réaction irritative comme ça. Donc, il y a des produits, la plupart des grands poisons sont dans la nature. Ce qui fait qu'un végétal peut être adoucissant théoriquement et en fait tout à fait caustique. Tous les produits qui sont issus de végétaux, pour en faire des médicaments, qu'ils soient locaux ou qu'ils soient avalés, ont été dosés en ayant toujours le même type de plantes, etc., etc., pour avoir quelque chose qui est homogène. Dès l'instant où on prend un produit qu'on a acheté de cette façon-là et qu'on le dilue, qu'on le mélange, etc., on ne sait plus du tout quelle est la dose des produits actifs qui vont pouvoir déclencher une réaction. Et là, pour le clou de girofle, il semble que ce soit plutôt caustique qu'allergique et que la réaction ait été donc violente, avec probablement une récupération quand même complète, mais un risque de pigmentation secondaire si on expose à la lumière ou sur une peau à phototype foncé, d'avoir une pigmentation qui traîne longtemps.
Alors il y a une question, si jamais on se met quelque chose sur les cheveux, on peut penser aussi aux teintures ou à certains produits de décoloration et qu'on voit une petite réaction allergique. C'est quoi la meilleure réaction dans l'immédiat?
Si c'est véritablement un phénomène allergique, il y a deux sortes d'allergies. Il y a celle qui apparaît tout de suite, comme une urticaire, comme une piqûre d'ortie, soit un eczéma qui apparaît de manière retardée et qui donne une peau qui pèle ensuite. Donc le coup d'après, si on se pose des questions, il faut que la coiffeuse ou le coiffeur applique le produit derrière l'oreille en petite quantité pour voir si ça déclenche la réaction avant de pouvoir reprendre. Et si c'est le cas, après il va falloir faire des tests chez un allergologue pour savoir par quoi on peut remplacer si on veut remplacer.
Alors, on a une question d'Augustin de Lubumbashi, on essaie de loin, mais ça ne passe pas, donc je suis sa porte-parole. Ça fait 2 ans hein, qu'Augustin a remarqué qu'il avait des petits boutons lorsque ses cheveux poussent. Il y a de fortes démangeaisons, il peut y avoir même des plaies quand il gratte justement. Alors, il se rase tous les 3 jours. Là, les boutons disparaissent, mais c'est à la repousse que le problème revient. Et il voudrait savoir comment réussir à les faire disparaître et comment expliquer qu'il y ait ce retour des boutons presque systématiquement.
Il y a plein de choses qui peuvent donner des boutons dans la tête. A priori, s'il s'agit d'une folliculite, c'est-à-dire une inflammation qui donne des petites pustules, c'est que la flore a changé au niveau du cuir chevelu et qu'on a une prolifération de certaines bactéries qui ne sont pas des méchantes bactéries. Donc si on fait un prélèvement, on ne verra pas forcément les bactéries dans le prélèvement. et le traitement ne serait que suspensif. Et dès l'instant où les cheveux sont plus longs, cette flore augmente en quantité et va déclencher donc la folliculite. Après, il y a des shampoings qui peuvent éventuellement améliorer. Il y a, lorsque ça traîne beaucoup, beaucoup, et que c'est très compliqué, le traitement de l'acné qu'on va utiliser à toute petite dose. Il va y avoir sinon des antibiotiques, mais sur une période limitée. Donc, bon, il faut voir, parce que là, il y a un diagnostic à poser avant toute chose pour être certain de quoi il s'agit et pas parler dans le vide.
Donc, Augustin, le conseil, encore une fois, hein, ça se termine toujours comme ça, c'est d'aller consulter. On va partir maintenant pour la Guinée.
RFI à Conakry, 89.9 FM.
Et en ligne avec nous, docteur Fatimata Keïta. Bonjour docteur.
Bonjour Caroline.
Vous êtes praticienne hospitalière au service de dermatologie MST du CHU d'Onca de Conakry. Dans votre service, quand on vient soigner un problème ou une maladie liée aux cheveux ou au cuir chevelu, qu'est-ce que vous relevez comme motif fréquent de consultation ?
Alors, avant de commencer, bonjour docteur Assouli.
Bonjour.
Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin sur l'antenne d'RFI. Je profite de l'occasion d'ailleurs pour vous renouveler toute ma gratitude pour toutes les leçons apprises à vos côtés. Et encore une fois, merci.
C'est gentil, merci beaucoup.
D'avoir partagé votre riche expérience avec moi. Soyez rassurés que j'en fais bon usage.
La formation.
Merci.
Voilà.
Merci.
Alors, pour revenir à la première question, Caroline, les motifs de consultation dans le service de dermato de Donka dépend du sexe et de l'âge.
Ouais.
L'âge, par exemple, chez les enfants, en pédiatrie, par exemple, l'âge pédiatrique, je veux dire, c'est plutôt les teintes du cuir chevelu qui sont plus fréquemment rencontrées. Et en fonction du sexe, les femmes consultent pour les chutes de cheveux, pour les problèmes de cheveux, beaucoup plus que les hommes.
Mmh. Est-ce que vous constatez, docteur Keïta, finalement des prises en charge assez tardives, même au stade des complications ?
Oui, nous constatons une prise en charge assez tardive parce que nous avons l'impression que les dames qui présentent des problèmes de cheveux, du cuir chevelu, ont plutôt tendance à vouloir faire recours au salon de coiffure, par exemple, au dermatologue. Et je pense que c'est l'occasion ici quand même de rappeler que le dermatologue est le médecin spécialiste des maladies de peau, des maladies des muqueuses, c'est-à-dire les muqueuses buccales et génitales, et également des fanères, c'est-à-dire les cheveux et les ongles.
Ça veut dire que quand on a vraiment un problème, mieux vaut quand même aller à l'hôpital ou voir un spécialiste. Est-ce qu'il y a des usages, des pratiques dans le quotidien des Guinéens et des Guinéennes qui contribuent à un certain nombre de problèmes capillaires ou problèmes dermataux ?
Oui, en effet. Il y a des pratiques capillaires néfastes de plus en plus, que ce soit du point de vue du type de défrisage utilisé, que ce soit du point de vue des différents types de coiffures qui entraînent des alopécies de traction, parce que c'est tout le temps des tresses, des sillons très serrés. Il n'y a pas assez de chevelure au niveau de la partie frontale. Et pour les coiffeuses et même pour les clientes, pour les patientes, quand il n'y a pas de traction, tant que ce n'est pas serré, ce n'est pas beau. Mmh. Donc, il nous arrive parfois de faire des sensibilisations dans ce sens en les conseillant plutôt des tresses dites protectrices et leur dire qu'on ne doit pas avoir mal. Parce que quand on a mal, ça veut dire que la racine souffre. Mmh. Et quand il y a la douleur, c'est que ce n'est pas une bonne pratique.
Alors, on va avoir une illustration, si vous le voulez bien, docteur, avec un message audio envoyé par une auditrice de Brazzaville. C'est Sandra, on l'écoute.
Suite à plusieurs défrisages excessifs, vraiment excessifs, je me retrouve aujourd'hui avec de l'alopécie. J'ai une chute de cheveux au milieu, à l'avant de la tête, donc ça fait comme une calvitie. Vous savez, un peu comme la coiffure des moines, là, des prêtres. Donc moi, devant là, j'ai toujours des cheveux, mais mes cheveux sont devenus très fragiles et j'ai l'impression que mon cuir chevelu n'est pas comme celui du derrière. Il est plus lisse, plus brillant, il fait plus mal. Et toute ma chevelure du devant, elle est fragilisée, ça se casse, ce n'est vraiment plus en bonne santé, c'est super fin. Par contre, à l'arrière de la tête, mes cheveux sont en très bonne santé, ils sont très beaux. Les cheveux du devant, là, vraiment, ils sont vilains. J'ai l'impression que même quand je mets du gel, ils ne se couchent pas, ils sont toujours en l'air. Donc voilà, je voudrais avoir des conseils pour savoir comment améliorer ma santé des cheveux. Merci et à très bientôt.
Docteur Keïta, j'imagine que vous êtes assez souvent confrontée à ce type de situation. Des femmes qui se sont défrisées hein, pour avoir un cheveu lisse, elles ont persévéré et puis finalement, au bout du compte, le résultat est assez catastrophique.
Alors, oui, tout à fait. J'ai bien compris le message, la note vocale de Sandra. Et je pense qu'on est face à ce qu'on appelle probablement encore, on est en hypothèse diagnostique, on n'a pas de certitude.
Oui.
Je n'ai pas vu le cuir chevelu, donc sous
je
réserve,
oui.
Il me semble qu'on est face à une alopécie qu'on appelle une alopécie cicatricielle centrale centrifuge du vertex. Mmh. Alors, c'est l'une des premières causes de consultation pour une alopécie cicatricielle primitive chez la femme d'âge moyen de 30 à 40 ans. Et de descendance africaine, bien sûr. Les mécanismes ne sont pas très bien élucidés pour cette pathologie, pour cette alopécie. Mais ceci dit, les patientes qui présentent ce type d'alopécie, par exemple, c'est retrouvé que c'est des dames qui ont beaucoup fait de défrisage, qui ont beaucoup fait des greffages, des tractions. Et à un certain, plus tu consultes tôt, et nettement, c'est mieux, au fait. Parce que là, lorsqu'il y a une alopécie cicatricielle, c'est-à-dire que lorsqu'il y a la destruction de la racine, il n'y a pas d'espoir pour que ça repousse.
Ça veut dire qu'il faut agir, on va dire, soit tout au début, soit avant, évidemment, avec des conseils de prévention. Je pense notamment au coiffage des petites filles, hein. Faire attention dès le plus jeune âge, parce que c'est vrai qu'elles sont adorables avec les petites tresses bien serrées sur la tête, mais à quel prix, si c'est pour se retrouver avec des zones complètement dégarnies quand on est déjà jeune femme, c'est vraiment dommage. On a Samuel en RDC qui demande justement, lui simplement, un conseil du quotidien, des ingrédients pour entretenir les cheveux au naturel. Vous conseillez quoi, vous, à vos patientes, à vos patients à Conakry, docteur Fatimata Keïta?
Alors, nous, pratiquement, on n'a pas de conseil à donner en ce qui concerne les habitudes cosmétiques du point de vue d'hydratation. C'est une question de choix. Il y a toute une variété de gamme de produits en parapharmacie. Mais vous utilisez une pommade de cuir chevelu aujourd'hui, ça vous convient, vous restez
vous continuez.
Dessus. Quoi. Voilà. Après, il y a plein de patients, il y a des gens aussi avec l'Internet, avec les réseaux sociaux, qui font des remèdes à domicile, qui font assez de cocktails. Donc, l'idéal serait de faire un choix en parapharmacie et si ça vous convient, vous restez dessus. Quoi.
Voilà, des conseils de bon sens. Sur la dimension sensibilisation des auditeurs, des auditrices sur la santé de leurs cheveux, qu'est-ce que vous souhaitez dire en conclusion?
Alors, en conclusion, parce que tout ce que nous sommes en train de dire en ce qui concerne les habitudes de coiffage, en ce qui concerne les différents types de défrisage, peuvent entraîner des alopécies, mais encore une fois de plus, ces chutes de cheveux sont que esthétiques au fait. Moi, je voudrais surtout m'appesantir sur des maladies beaucoup plus graves qui peuvent entraîner des chutes de cheveux, voire des maladies de cuir chevelu qui vont se manifester par des rougeurs sur la tête et avec des squames. Il y a des maladies dites maladies inflammatoires qui peuvent se manifester et sur le cuir chevelu et sur la peau et sur la partie génitale. Sauf que ces lésions peuvent être des lésions précancéreuses. Et dans ce cas, on ne parle plus d'esthétique, genre de chute de cheveux banale, parce que ces chutes de cheveux dont nous parlons, il n'y a pas de maladie sous-jacente. Et également, au-delà de ces maladies inflammatoires, il y a des maladies dites maladies de système qui peuvent attraper et la peau et le cuir chevelu, mais parce que ça peut également attraper d'autres organes vitaux et dans certains cas qui peuvent vraiment mettre en jeu le pronostic vital du patient.
Donc j'imagine...
l'idéal serait quand même de consulter pour
ouais.
être rassuré que c'est juste une chute de cheveux d'ordre esthétique. Soit vous arrêtez ou vous continuez et que vous retrouvez son cheveu à la longue, mais sans que le pronostic vital ne soit en jeu, ou alors que mieux vaut consulter très tôt et que si c'est une pathologie grave, qu'elle soit prise en charge dans un bref délai.
Merci pour cet éclairage, docteur Keïta. On vous retrouve, docteur Philippe Assouli. On a parlé des frisages, tressage. Un autre geste à vocation esthétique au départ, c'est la coloration. On a une question au Tchad à Djamena de Doumoula qui demande si l'utilisation répétée de teinture noire sur les cheveux, on imagine un homme qui a des cheveux blancs qui veut paraître plus jeune, peut avoir des conséquences sur la santé capillaire. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre? Teinture noire, c'est bien précis.
Oui, alors après, ça dépend du produit qui est dans cette teinture. Il y a des produits qui étaient à base de plomb avant, etc. Donc, 1000 produits peuvent créer une teinture ou simplement colorer de manière très limitée. Le problème des produits de teinture, de manière générale, c'est nous rend assez mal à l'aise parce que les gens veulent faire une teinture, que ce soit les hommes, les femmes. Et on n'a aucun produit simple, sans danger connu sur l'avenir, qu'on puisse recommander. Donc, il y a des choix à faire, il n'y a pas spécialement d'interdiction. Les produits qui sont sur le marché sont des produits qui ont été testés de manière générale. Mais
pas forcément sur tous les marchés, il faut faire attention.
Pas forcément, et ça dépend de l'endroit où on achète.
Ouais, l'endroit où on achète
et donc, on ne peut pas être absolument garant d'absence de problème sur le moyen terme, sur le court terme ou sur le long terme.
Justement, recommandation, ça va être quoi justement de choisir des produits qui ont l'air sérieux avec des ingrédients qui sont bien identifiés sur l'origine du produit? C'est quelque chose de compliqué quand même.
Ça, si c'est une grande marque et qu'on est sûr que ce soit un vrai produit fait par la marque, il y a un certain nombre de règles qui sont établies pour lesquelles, oui, on peut être garant qu'en tout cas, il ne va pas se passer un truc spectaculaire ou inconnu.
Parce qu'il peut y avoir des allergies aussi qui peuvent avoir des conséquences très préjudiciables.
Voilà, et notamment tous les produits qui vont être d'origine naturelle, entre guillemets, avec des plantes, peuvent déclencher une réaction allergique parce qu'il y a plus d'allergies, par exemple, à des teintures d'origine végétale qu'à des teintures chimiques, même si on n'est pas très content de la chimie et des produits dont on dispose aujourd'hui.
Donc on ne fait pas n'importe quoi quand on veut changer de couleur de cheveux. On a bien compris avec tous ces messages. Merci pour toutes ces réponses aux questions des auditrices et des auditeurs. Docteur Assouli, on va retrouver dans quelques instants notre médecin du sport, le docteur Jean-Marc Sen, juste après un très beau duo Sidiki Diabaté et Wally Sek avec Assurance sur RFI.
Aziz Sam
Sidiki be moza bebe o moza de tarara jamais non jamais tu es assuré à vie garantie à vie bébé je t'aime
khale bi manof man sumarombe sama yaram di daw si amano hoy c'est ma préféré.
Love you, baby. Love you, baby. No, 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 no. Ma chérie coco
Et c'est le moment de parler activité physique et santé. Notre rendez-vous avec le docteur Sen, médecin du sport. Docteur Jean-Marc Sen, bonjour.
Bonjour Caroline.
Aujourd'hui, on va parler du rôle, ou plutôt des méfaits du tabac pour les sportifs et pour savoir aussi si l'activité physique peut d'une certaine manière compenser ces effets néfastes du tabac. Alors, c'est bien notre première question, docteur Sen. Est-ce que quand on fume, faire du sport, en quelque sorte, ça compense?
Eh ben non. Il est crucial, il est essentiel d'arrêter de fumer pour les sportifs. D'abord parce que ça diminue les capacités respiratoires liées à l'irritation des muqueuses et à l'hypoxie. Et puis ça altère les performances musculaires. On sait que la qualité des fibres musculaires est réduite. Résultat, moindre endurance, moindre vitesse, moindre force. Et puis, sans parler de l'augmentation des risques cardiovasculaires avec le tabagisme, qui augmente, faut-il le rappeler, les maladies et les accidents cardiovasculaires. Un fumeur réduit potentiellement son espérance de vie de 15 ans par rapport à un non-fumeur.
Alors, évidemment, arrêter de fumer, ce n'est pas simple. Il y a des effets bénéfiques, on va en parler. Puis parfois, c'est un petit peu plus compliqué, justement, cet arrêt du tabac. On peut dire que c'est quelque chose d'assez complexe et ça peut même avoir des effets secondaires. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet, docteur Sen?
Alors, ce qui est certain, c'est que lorsque on arrête le tabac, on peut avoir un sevrage rapide de la nicotine. Ça, c'est vrai, en 4 jours, on a cela. Mais les difficultés, en fait, sont dues aux dépendances physiques et psychologiques du tabac. Et puis, souvent, à la prise de poids, parce qu'il faut savoir que le tabac a un effet anorexigène. Et donc, on le fait de l'arrêter, on perd cet effet-là. On retrouve des sensations gustatives et là, on a envie de plus manger. Et c'est là que le sport devient un atout, puisqu'il permet d'arrêter de fumer sans forcément prendre de poids et il agit comme un anxiolytique grâce à ses effets liés aux endorphines. Et puis, lorsqu'on arrête immédiatement la cigarette, il y a des avantages immédiats. 20 minutes après l'arrêt de la dernière cigarette, la pression sanguine, la fréquence cardiaque se normalisent. On est moins essoufflé. En moins d'un an, le risque cardiaque est réduit. Après un an, et l'espérance de vie est égale à un non-fumeur après 10 à 15 ans.
D'arrêt de la cigarette, c'est
absolument.
Ça.
Absolument.
Alors, quels sont les conseils que vous avez envie de donner à celles et ceux qui veulent arrêter de fumer tout en restant actifs?
Alors, l'idée, c'est la motivation et la détermination. Essayez de commencer par intégrer plus de mouvement au quotidien. Voilà, ça va vraiment vous aider. Évitez de fumer autour des activités sportives. Ça, c'est important, c'est-à-dire ne pas associer sport et tabac. D'abord, ne pas fumer 2 heures après, pas 1 heure avant, pas 2 heures après. Ça aussi, il y a une raison, parce qu'on augmente le risque coronaire lorsqu'on fume à cause du monoxyde d'azote qui est absorbé. Et puis, il faut savoir que cette activité physique va vous aider à réduire le tabagisme et ses dangers, comme on l'a expliqué, grâce à l'effet motivationnel. Et puis, maintenir évidemment sa santé cardiaque et respiratoire, le fait de pratiquer régulièrement, améliore votre capacité à l'effort. Et ça, évidemment, vous allez vous sentir mieux. Ça va être quelque chose qui va être extrêmement bénéfique. Évidemment, on ne rationalise pas le tabagisme. C'est-à-dire, on va pas se dire... Puisque je fais de l'activité physique, je peux fumer une cigarette.
C'est une excuse, en quelque sorte.
C'est une excuse, et ça, c'est pas une bonne chose. Au contraire, c'est une alternative. Ça permet de remplacer, par exemple, les pauses cigarettes par des promenades courtes. Plutôt que d'aller fumer, on va faire une petite promenade. Ça peut être une chose qui peut être intéressante. Donc, on espère vraiment qu'avec tous ces conseils, on encouragera évidemment tous nos auditeurs à avoir un mode de vie plus sain et à dire adieu au tabac. Avec le sourire.
Toujours avec le sourire avec vous. Merci, docteur Jean-Marc Sen, et à très bientôt dans Priorité Santé. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui, chaque jour, prépare et réalise votre émission. Ophélie Lassen, Louise Calédec, Talim Pou, Didier Bleu et Thierry Le Saint. Aujourd'hui, à la réalisation. Demain, on va parler du métier de sage-femme dans l'émission Formation, savoir, compétences de cette profession dédiée au suivi de la grossesse, de l'accouchement et à l'accompagnement post-natal. Sage-femme, un rôle clé pour la santé des femmes et de l'enfant. On se donne rendez-vous à 9h10 temps universel. D'ici là, restez à l'écoute de RFI et surtout, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sounou Banque avec vous à chaque étape.